Le journal de George Fox 1655-1656 Ministère approfondi et prison de Lancaster, page 4-3. Nous fûmes détenus en prison jusqu'aux prochaines assises. Avant ce moment, beaucoup d'amis, hommes et femmes, furent envoyés en prison, ayant été arrêtés par les patrouilles. Lorsque les assises arrivèrent, plusieurs d'entre eux furent appelés devant le juge et mis en accusation, et bien que le geôlier les eût conduits au tribunal, on les accusa néanmoins d'être entrés par force d'armes et d'une manière hostile, et le juge les amenda parce qu'ils ne voulaient pas ôter leur chapeau. Mais nous ne fûmes plus jamais appelés devant les juges. Nous eûmes un grand travail et un grand service pour le Seigneur, tant entre les assises qu'après, parmi les professants et des gens de toutes sortes, car beaucoup venaient nous voir et raisonner avec nous. Comme il a été mentionné plus haut, Elizabeth Trelawney de Plymouth, fille de celui qu'on appelait un baronnet, avait été convaincue de la vérité. Les prêtres, les professants et quelques personnes importantes de sa parenté s'en irritèrent et lui écrivirent des lettres. Comme c'était une femme sage et délicate, qui craignait de leur donner quelque avantage, elle m'envoya leurs lettres. J'y répondis et les lui renvoyai afin qu'elle leur fît parvenir les réponses, ce qu'elle fit, jusqu'à ce que, grandissant dans la puissance, l'esprit et la sagesse de Dieu, elle fût elle-même capable de répondre aux plus sages prêtres et professants de tous, et elle eut autorité sur eux dans la vérité, par la puissance du Seigneur, par laquelle elle fut maintenue fidèle jusqu'à sa mort. Pendant que j'étais ici en prison, les baptistes et les hommes de la cinquième monarchie prophétisaient que, cette année-là, Christ viendrait et régnerait sur la terre 1000 ans. Et ils considéraient ce règne comme extérieur, alors qu'il était venu intérieurement régner et gouverner dans les cœurs de son peuple, ses croyants ne voulaient pas le recevoir dans leur cœur. Ainsi ils échouèrent dans leur prophétie et leur attente, et n'eurent pas la possession de lui. Mais Christ est venu, et il demeure et règne dans les cœurs de son peuple. Des milliers, à la porte du cœur desquels il a frappé, lui ont ouvert, il est entré, et il soupe avec eux, et eux avec lui, le souper céleste avec l'homme céleste et spirituel. Ainsi beaucoup de ces baptistes et gens de la monarchie devinrent les plus grands ennemis des disciples du Christ, mais ils règnent dans le cœur de ces saints au-dessus de toute leur envie. Aux assises, plusieurs juges de paix vinrent nous voir et se montrèrent assez civils, tout en raisonnant sobrement des choses de Dieu et en nous exprimant leur pitié. Le capitaine Fox, gouverneur du château de Pandeny, vint aussi et me regarda en face sans dire un mot, puis il alla vers ses compagnons et leur dit « Je n'ai jamais vu de ma vie un homme plus simple. » Je l'appelai et lui dis « Attends, mon homme, nous verrons qui est le plus simple. » Mais il s'en alla, personnage léger et vain. Thomas Lowe vint aussi nous visiter et nous offrit de l'argent, que nous refusâmes, acceptant néanmoins son amour. Il nous posa beaucoup de questions au sujet de notre refus de considérer les Écritures comme la parole de Dieu, au sujet des sacrements et autres choses semblables. À toutes, il reçut satisfaction. Je lui parlai particulièrement, et il dit ensuite que mes paroles avaient été comme un éclair, tant elles l'avaient traversé. Il dit qu'il n'avait jamais rencontré d'hommes aussi sages de sa vie, car il connaissait les pensées de son cœur, et ils étaient comme les sages maîtres bâtisseurs des assemblées, qui fixaient leurs paroles comme des clous. Il vint à être convaincu de la vérité, et demeure ami jusqu'à ce jour. Lorsqu'il rentra chez sa tante Amblay, où il vivait alors, et lui fit rapport à notre sujet, elle, avec sa sœur Grace Billing, entendant le rapport de la vérité, vint nous visiter en prison, et elles furent aussi convaincues. Lui et sa tante ont subi de grandes souffrances et des saisies de bien pour l'amour de la vérité. À cette époque, je fus poussé à adresser l'exhortation suivante aux amis dans le ministère. Amis, demeurez dans la puissance de vie et de sagesse, et dans la crainte du Seigneur Dieu de vie, du ciel et de la terre, afin que dans la sagesse de Dieu vous soyez préservés au-dessus de tout, et que vous soyez une terreur pour tous les adversaires de Dieu, et un sujet de crainte, répondant à ce qui est de Dieu en eux tous, répandant la vérité au loin, réveillant le témoin, confondant la tromperie, rassemblant hors de la transgression dans la vie, vers l'alliance de lumière et de paix avec Dieu. Que toutes les nations entendent le son, par la parole ou par l'écrit. N'épargnez aucun lieu, n'épargnez aucune langue ni aucune plume, mais soyez obéissants au Seigneur Dieu. Menez l'œuvre jusqu'au bout, soyez vaillants pour la vérité sur la terre, et foulez et piétinez tout ce qui est contraire. Vous avez la puissance, n'en abusez pas, et la force et la présence du Seigneur, ayez-les à l'œil, ainsi que la sagesse, afin qu'avec elle vous soyez tous ordonnés à la gloire du Seigneur Dieu. Demeurez dans la domination, demeurez dans la puissance au-dessus de toute tromperie, marchez sur elle par ce qui vous fait voir jusqu'à la fin du monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Régnez et gouvernez avec le Christ, dont le sceptre et le trône sont maintenant établis, dont la domination s'étend sur tout jusqu'aux extrémités de la terre, dont la domination est une domination éternelle, son trône un trône éternel, son royaume un royaume éternel, sa puissance au-dessus de toutes les puissances. Ainsi telle est la parole du Seigneur pour vous tous, demeurez dans la sagesse de Dieu, qui s'étend sur toute la terre, la sagesse de la création qui est pure d'en haut, non destructrice. car maintenant le salut sortira de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü. Maintenant la loi sortira de Jérusalem, pour répondre aux principes de Dieu en tout, pour abattre tous les inventeurs et leurs inventions. Car tous les princes de la terre ne sont que comme de l'air devant la puissance du Seigneur Dieu, dans laquelle vous êtes et dont vous avez goûté. Vivez donc en elle, telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, n'en abusez pas, demeurez abaissés et humbles, et prenez garde aux fausses joies qui changeront, amenez tout dans l'adoration de Dieu, labourez la terre en friche. Battez et sortez le grain, afin que la semence, le blé, soit rassemblée dans la grange, afin que tous les peuples puissent venir au commencement, à Christ, qui était avant que le monde fût fait. Car la balle est venue sur le blé par la transgression. Celui qui sépare le blé de la balle n'est pas de la transgression, mais il comprend la transgression, il fait la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, il sait choisir le blé parmi les mauvaises herbes, et il rassemble le blé dans le grenier. Ainsi il apporte la vive espérance à l'âme immortelle et ramène l'âme immortelle vers Dieu d'où elle est venue. Nul ne peut adorer Dieu, sinon celui qui vient au principe de Dieu, qu'il a transgressé. Nul n'est labouré, sinon celui qui vient au principe de Dieu en lui, qu'il a transgressé. Alors il rend service à Dieu, alors viennent la plantation, l'arrosage et la croissance qui sont de Dieu. Ainsi les ministres de l'Esprit doivent servir l'Esprit qui est en prison, qui a été en captivité en chacun, afin que, par l'Esprit du Christ, les gens soient conduits hors de la captivité jusqu'à Dieu, le Père des Esprits pour le servir et avoir l'unité avec lui, avec les Écritures, et les uns avec les autres. Telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, une charge pour vous tous en la présence du Dieu vivant, soyez des modèles, soyez des exemples en tout pays, lieu, île, nation, partout où vous venez, afin que votre vie et votre conduite prêchent parmi toutes sortes de personnes, et pour elles. Alors vous en viendrez à marcher joyeusement au-dessus du monde, répondant à ce qui est de Dieu en chacun, par quoi vous pourrez être en eux une bénédiction, et amener le témoin de Dieu en eux à vous bénir, alors, pour le Seigneur Dieu, vous serez une bonne odeur et une bénédiction. N'épargnez aucune tromperie. Posez l'épée sur elle, passez par-dessus. Gardez-vous pur du sang de tous les hommes, soit par la parole soit par l'écrit, et gardez-vous net, afin de pouvoir vous tenir sur votre trône, et que chacun ait sa part et se tienne dans sa part dans l'ancien des jours. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, et qu'elle vous garde au-dessus de tous les cultes idolâtres et des adorateurs. Qu'ils connaissent le Dieu vivant, car les enseignements, les églises, les cultes doivent être renversés par la puissance du Seigneur Dieu, eux qui ont été établis par l'entendement terrestre de l'homme, sa connaissance et sa volonté. Tout cela doit être renversé par ce qui a donné les Écritures, et ceux qui sont en cela règnent sur tout. Telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous. En cela Dieu est adoré, cela conduit à déclarer sa volonté, et conduit à l'Église en Dieu, colonne et soutien de la vérité. Car maintenant le jour puissant du Seigneur est apparu, et les flèches du Tout-Puissant sont parties, elles se planteront dans le cœur des méchants. Maintenant je me lèverai, dit le Seigneur du Tout-Puissant, pour fouler et tenir à terre la tromperie, qui a longtemps régné et souillé la terre. Maintenant je tirerai ma gloire de chacun. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant sur tout, dans sa force et sa puissance, vous garde pour sa gloire, afin que vous veniez à répondre à ce qui est de Dieu en chacun dans le monde. Proclamez le jour puissant du Seigneur de feu et d'épée, qui sera adoré en esprit et en vérité, et demeurez dans la vie et la puissance du Seigneur Dieu, afin que les habitants de la terre tremblent devant vous, afin que la puissance et la majesté de Dieu soient admirées parmi les hypocrites et les païens, et que vous soyez dans la sagesse, la crainte, la vie, la terreur et la domination préservées pour sa gloire, afin que rien ne gouverne ni ne règne sinon la puissance et la vie elle-même, et quand la sagesse de Dieu vous soyez prêts. Telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, l'appel est maintenant à sortir de la transgression, l'Esprit dit « venez ». L'appel est maintenant de sortir de tous faux cultes et faux dieux, de toutes inventions et œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. L'appel est à la repentance, à l'amendement de vie, afin que la justice soit produite et qu'elle se répande sur toute la terre. Ainsi vous qui êtes choisis et fidèles, qui êtes avec l'agneau, accomplissez votre œuvre fidèlement dans la force et la puissance du Seigneur, et soyez obéissants à la puissance, car elle vous sauvera des mains d'hommes déraisonnables, et vous préservera au-dessus du monde pour lui-même. Par cela vous pouvez vivre dans le royaume qui subsiste en puissance, qui n'a pas de fin, où sont la gloire et la vie. George Fox après les assises, le shérif et quelques soldats vinrent pour conduire à l'exécution une femme condamnée à mort, et nous eûmes beaucoup de discussions avec eux. L'un d'eux dit méchamment, « Christ était un homme aussi emporté que quiconque ait vécu sur la terre. » Pour cette parole perverse, nous le reprîmes. Une autre fois, nous demandâmes au geôlier quelles affaires étaient jugées aux sessions. Le geôlier répondit, « De petites affaires, seulement une trentaine pour bâtardise. Nous trouvâmes très étrange que ceux qui se disaient chrétiens traitassent cela si légèrement. mais ce geôlier était lui-même fort mauvais. Je l'exhortais souvent à la sobriété, mais il insultait les gens qui venaient nous visiter. Edward Pio reçut un fromage que sa femme lui avait envoyé de Bristol, et le geôlier lui prit, et le porta au maire pour le faire examiner à la recherche de lettres de trahison, disait-il, et bien qu'ils ne trouvassent aucune trahison dans le fromage, ils nous le gardèrent. Ce geôlier aurait pu être riche s'il s'était conduit civilement, mais il chercha sa propre ruine, qu'il éprouva bientôt, car l'année suivante il fut chassé de sa charge et pour quelque méchanceté, jeté lui-même en prison, et là il mendia auprès de nos amis. Et pour quelque indiscipline dans sa conduite, le geôlier suivant le mit à Dormsdall, l'y enferma au fer le bâti, et lui dit de se souvenir comment il avait maltraité ces bons hommes, qu'il avait méchamment, sans aucune cause, jeté dans cette sale prison, et lui dit qu'à présent il souffrirait à juste titre pour sa méchanceté, et que la même mesure qu'il avait mesurée aux autres lui serait mesurée à lui-même. Il devint très pauvre et mourut en prison. Sa femme et sa famille tombèrent dans la misère. Pendant que j'étais en prison à Launceston, un ami alla trouver Oliver Cromwell et s'offrit, corps pour corps, à rester à Dormsdale à ma place, s'il voulait bien le prendre et me mettre en liberté. Cela le frappa tellement qu'il dit à ses grands et à son conseil, « Lequel de vous ferait autant pour moi, si j'étais dans la même situation ?» Et bien qu'il n'accepta pas l'offre de l'ami, disant « Je ne peux pas le faire, car c'est contraire à la loi », pourtant la vérité vint puissamment sur lui par ce moyen. Suit la lettre à Fox de l'ami qui, par amour, se porta volontaire pour prendre sa place. Un frère Norton à George Fox 1656 Cher George Fox, toi dont la beauté et la grâce des paroles ne peuvent s'exprimer. Je suis poussé à écrire ceci et à me livrer librement, par l'amour de la semence, et l'amour de la semence qui est sur toi, pour placer devant toi ce message. Le 17 du mois dernier, j'attendais le Seigneur. Dans ma vie, tu es apparu. Depuis lors, il m'a été pesant de faire quelque chose qui te touche, et maintenant mon attrait me conduit en ce lieu où je suis à présent. Puisque tu es le prisonnier d'Olivet, il m'est maintenant requis de lui offrir mon corps pour ton corps en prison, et je suis prêt à le faire, même si cela devait conduire à mon sang. Si tu reçois mon offre par cette lettre, veille à ce que cette offre se tienne avec sagesse, et fais-moi connaître le total de tes souffrances injustes et de ton amende pécuniaire, afin que je le présente devant lui, de sorte qu'il n'ait aucune excuse, et que je sois quitte de ce qui m'est requis. Tu es cher et choisi, fais-moi savoir de tes nouvelles, car je vois le grand besoin que tu as d'être libre. J'ai été l'un des premiers à être à Swarthmore, et dans ces réunions il y avait beaucoup d'orateurs et de prières, et un chant tel que je n'en ai jamais entendu, ainsi que l'illumination parmi eux que j'ai vue et ressentie. Je ressens le besoin d'exposer cela devant toi et James Naylor, vous étant tous deux suffisants pour ces choses et pour leur cause, et la divergence à Kendall et au sujet de Kendall. Le manque de votre manifestation envers Israël pèse sur moi, jusqu'à ce que j'aie de tes nouvelles, moi qui, avec des paroles sans feinte, suis prêt à déposer ma vie, moi, un frère Norton, dans la volonté du Père et par sa puissance, je suis prêt à faire ce qui a été mentionné ci-dessus. Londres, ce 4 du 2 mois 1656, commentaire de l'éditeur du site, 149 Quakers envoyèrent également une lettre au Parlement, offrant de remplacer leur frère souffrant en prison. C'est une offre remarquable d'amour et d'abnégation, disponible à la lecture sur ce site. Bien longtemps après, il envoya le major général Disburgh, prétendant nous mettre en liberté. Lorsque nous le rencontrâmes, il nous offrit la liberté si nous voulions dire « Nous rentrerons chez nous et ne prêcherons plus », mais nous ne pouvions pas le lui promettre. Alors il insista pour que nous promettions de rentrer chez nous si le Seigneur le permettait, sur quoi Edward Pio lui écrivit la lettre suivante. Au major général Disburgh ami, bien que beaucoup puisse être dit quant à la liberté des Anglais de voyager en toute partie de l'Angleterre, celle-ci étant, par la loi, comme la maison de l'Anglais, et lui devant y être protégée en toute partie, et s'il transgresse la loi, la peine due au transgresseur doit être infligée. Et quant à la liberté de conscience, qui est un droit naturel et fondamental, et son exercice par ceux qui professent la foi en Dieu par Jésus-Christ, il doit être protégé, comme il ressort de l'instrument de gouvernement, bien qu'il diffère en doctrine, culte et discipline, pourvu que cette liberté ne s'étende ni à la papauté, ni à la prélature, ni à la licence. Lorsque ces droits nous sont refusés, nos libertés sont bafouées, elles qui sont le prix de beaucoup de sang et de trésors dans les guerres récentes. Pourtant nous sommes dans la puissance de Dieu au-dessus de tout, par laquelle tous doivent être gouvernés, et nous y demeurons, et par elle seule nous sommes guidés à faire la volonté de Dieu, dont la volonté est libre, et nous marchons par la puissance dans la liberté de sa volonté, soit qu'elle commande, soit qu'elle nous le permette, sans aucune condition ni contrainte de la part des hommes à cet égard, car nous devons suivre selon que la puissance nous meut, soit par commandement, soit par permission. Et bien que nous ne puissions promettre ni mettre comme condition d'aller en tel endroit de la région, ou de faire ceci ou cela, si le Seigneur le permet, car ce serait faire la volonté de l'homme par la permission de Dieu, il est pourtant probable que nous traverserons ces parties du pays dans la liberté de la volonté de Dieu, selon que nous serons chacun poussés et conduits par la pure puissance, et non par nécessité. Lorsque nous fûmes appréhendés, nous nous en remîmes à Dieu, comme nous voyagions en direction de nos maisons, et, autant que je sache, nous pourrions partir, si l'on ordonnait d'ouvrir les portes de la prison et si nous étions délivrés de nos liens. Nous devions rester après que le Seigneur nous a commandé de partir, ou si nous devions partir après que le Seigneur nous a commandé de rester, n'ayant pas l'ordre de rester mais étant autorisés à sortir d'ici, la pure puissance nous poussant à le faire et que pourtant nous restions, ou si nous partions quand, comme dit plus haut, nous avons reçu l'ordre de rester, alors vraiment nous serions des vagabonds, car les vagabonds sont ceux qui s'écartent de la volonté et de la puissance de Dieu et voyagent partout selon leur propre vol. Ainsi, dans la crainte du Seigneur Dieu, pesez et considérez bien, avec le juste poids et la juste balance, afin de rendre justice aux justes et innocents en prison. Edward Pio, quelque temps après que ce qui précède lui eût été remis, et comme il n'avait donné aucun ordre pour notre élargissement, je lui écrivis aussi ce qui suit, au Major Général Disbarami, nous qui sommes dans la puissance de Dieu, le souverain de tous, le soutien de toutes choses, et qui connaissons et demeurons dans sa puissance, nous devons lui obéir, ce qui nous amène à nous tenir hors de toutes les volontés des hommes, sans limitation. Dire « nous le ferons si le Seigneur le permet » peut se faire dans le cas d'acheter et de vendre pour obtenir un gain, si l'intention est de le faire, mais nous nous tenons dans la puissance de Dieu pour faire sa volonté, et nous sommes hors de la volonté de l'homme. Si l'homme propose, vous serez libérés si vous dites quelque chose, et nous rentrerons chez nous si le Seigneur le permet, ou si telle est la volonté de Dieu, et que parce que nous ne pouvons dire ces mots dans ce cas nous n'aurons pas notre liberté, parce que nous savons que la volonté de Dieu est différente, en ce que nous sommes requis d'aller parler en quelque autre lieu, ici nous ne pouvons dire ces mots en vérité. Car dire « nous rentrerons chez nous » si c'est selon la volonté de Dieu, quand nous savons que la volonté de Dieu est autre, il nous est impossible de le faire, véritablement et clairement. Aucun homme ne peut non plus dire cela à celui qui l'exige de lui, lui qui se tient dans la puissance et connaît la puissance de Dieu pour le conduire selon la volonté de Dieu, et qu'elle le conduit vers un autre endroit que sa demeure extérieure. Mais le Fils de Dieu, qui vint pour faire et fit la volonté de Dieu, n'avait pas où reposer sa tête, et les apôtres, et beaucoup de disciples du Christ, n'avaient pas de demeure certaine. Maintenant, si l'on avait empêché les apôtres parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils rentraient chez eux, si c'était la volonté de Dieu, sachant que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils rentrent chez eux, et qu'ils pouvaient faire la volonté de Dieu en ne le faisant pas, et ne pouvaient donc prononcer ces paroles pour satisfaire l'esprit et la volonté de l'homme, une telle restriction n'eût-elle pas été mauvaise? Abraham ne pouvait faire la volonté de Dieu à moins de quitter son pays natal, et ceux qui sont de la foi sont d'Abraham, dont Christ est venu selon la chair. Or, si vous alléguez, cela revient à tout relâcher et à donner liberté à l'oisiveté, je dis non, ceux qui sont dans la puissance de Dieu, qui font la volonté de Dieu, viennent à recevoir sa sagesse par laquelle toutes ces créatures ont été créées, et par laquelle elles sont employées à sa gloire. Je dirai ceci. Ceux d'entre nous que le Seigneur Dieu de gloire et de puissance poussera à aller à leurs habitations extérieures, ceux-là pourront aller à leur maison, et y être diligents dans le service du Seigneur, afin d'être une bénédiction venant de Dieu en leur génération, le servant avec diligence en vie et en doctrine, en mœurs, en conduite, en toutes choses. Et ceux que le Seigneur poussera à aller en quelque autre lieu, nous tenant dans sa volonté et étant mus par sa puissance, qui comprend toutes choses et ne doit pas être limitée, nous ferons sa volonté que nous avons l'ordre de faire. Ainsi le Seigneur Dieu ouvre vos entendements, afin que vous puissiez voir cette grande puissance du Seigneur, qu'il manifeste maintenant parmi ses enfants en ce jour qui est le sien, afin que vous ne la résistiez pas dans nos amis qui sont entrés dans la puissance de Dieu, et vers Dieu et le connaissent lui par qui le monde fut fait, par qui toutes choses furent créées, tout ce qui fut créé et rien ne fut fait sinon ce qui fut fait pour lui, et à lui et par lui, lui qui est la puissance de Dieu, et qui éclaire tout homme venant au monde. Maintenant nos amis, étant venus à cette lumière qui vient du Christ, et ayant reçu puissance de celui par qui toutes choses furent créées, à qui toute puissance au ciel et sur la terre est donnée, lui qui est la sagesse de Dieu, nous avons reçu de lui sagesse et puissance, par lesquelles le Seigneur nous donne de savoir comment user et ordonner les créatures à la gloire de lui, le Créateur de toutes choses. Ainsi nos amis ici sont enseignés par le Seigneur à être diligents, le servant, et ceux qui entrent dans la vie d'où les Écritures ont été données, se donnent à servir le Seigneur. De cela, j'ai dans toutes vos consciences un témoin. Ainsi, si vous ouvrez la porte de la prison, nous n'y resterons pas. Si vous envoyez un acte d'élargissement et nous mettez en liberté, nous ne resterons pas en prison, car Israël doit sortir libre, liberté acquise par la puissance de Dieu et le sang de Jésus. Mais celui qui sort de la puissance de Dieu perd sa liberté. George Fox et les autres qui souffrent pour la vérité dans la prison de Launceston le 13 du 6 mois, 1656. Après cela, le major Disbeuf vint sur le Castle Green et joua aux boules avec les juges de paix et d'autres. Plusieurs amis furent poussés à y aller et à l'exhorter, lui et eux, à ne pas perdre le temps si vainement, les priant de considérer que, bien qu'ils se professassent chrétiens, ils s'abandonnaient à leur plaisir, tandis qu'ils maintenaient les serviteurs de Dieu en prison. Les amis leur dirent aussi que le Seigneur plaiderait contre eux et les visiterait pour de telles choses, mais malgré ce qui lui fut écrit ou dit, il s'en alla et nous laissa en prison. Nous comprîmes cependant ensuite qu'il délégua toute décision au colonel Bennet, qui avait la charge de la prison. Quelque temps après, Bennet proposa de nous rendre la liberté si nous payions les frais du geôlier. Mais nous lui dîmes que nous ne pouvions pas payer de frais de geôlier, car nous souffrions innocemment, et comment pouvaient-ils attendre des frais de notre part, alors que nous avions injustement souffert si longtemps. Après un moment, le colonel Bennet vint en ville et nous fit appeler dans une auberge, et il insista de nouveau sur les frais, ce que nous refusâmes. Enfin la puissance du Seigneur vint tellement sur lui que, le 13e jour du 7e mois 1656, nous fûmes mis en liberté. Nous avions été prisonniers 9 semaines aux premières assises, appelées les assises de carême, au printemps de l'année. Pendant que j'étais prisonnier ici, j'observais combien les gens, en particulier ceux qu'on appelait la gentry, étaient adonnés au plaisir et au divertissement vain, et je fus poussé, avant de quitter le lieu, à publier plusieurs écrits comme avertissement pour eux, et pour tous ceux qui gaspillaient ainsi leur temps. L'un d'eux était ainsi, « Ceci doit circuler parmi ceux qui se livrent aux plaisirs et à la débauche. Les péchés de Sodome et Gomorre étaient l'orgueil, l'abondance de pain et l'excès d'oisiveté. Leur conduite infâme tourmentait jour après jour l'âme juste du juste lot, et ils ne voulurent pas prendre avertissement, c'est pourquoi Dieu envoya le feu sur eux et les réduisit en cendres. Et c'est dans la Sodome et l'Égypte spirituelle que notre Seigneur Jésus-Christ fut crucifié, et il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et se leva pour jouer, et Dieu ne fut pas content d'eux, et il en tomba 23 000 en un seul jour. » L'apôtre commanda aux saints de ne pas suivre ces gens, car ces choses leur arrivèrent à titre d'exemple, et elles sont écrites pour notre avertissement. Et Dieu n'épargna pas l'ancien monde, mais réservant Noé prédicateur de justice, il fit venir le déluge sur le monde des impies, les faisant un exemple pour tous ceux qui ensuite vivraient dans l'impiété. Remarquez, vous les impies, qui êtes comme des bêtes brutes par nature, qui prononcez de grandes paroles enflées de vanité, séduisant par les convoitises de la chair, par beaucoup de débauches, comme ceux qui tiennent pour plaisir de se livrer aux excès en plein jour, vous jouant vous-même dans vos propres tromperies, vous recevrez la récompense de l'injustice. Vous êtes comme des chiens et des porcs, retournés à leur vomissement et se vautrant dans la fange, disant du mal de choses que vous ne connaissez pas, et si vous ne vous repentez, vous périrez entièrement dans vos propres corruptions. Vous avez vécu dans les plaisirs sur la terre et dans la débauche. Vous avez engraissé vos cœurs comme pour un jour d'abattage. Vous avez condamné et tué le juste, et il ne vous résiste pas. Allez pleurer et hurler à cause du malheur qui vient sur vous. Celle qui vit dans les plaisirs est morte pendant qu'elle vit. Dieu condamna les villes de Sodome et Gomorre, les faisant un exemple pour tous ceux qui ensuite vivraient dans l'impiété, dans une conduite mauvaise et infâme. Remarquez, voici votre exemple. Entendez ceci, vous qui vous livrez au plaisir, et lisez vos exemples. George Fox, un autre, ayant remarqué les joueurs de boules venus se divertir sur le Castle Green, était comme suit, « La parole du Seigneur à vous tous, gens vains et oisifs, qui aimez les sports, les plaisirs, les exercices insensés et les divertissements, comme vous les appelez, considérez vos voies et ce que vous faites. Était-ce la fin de votre création? Dieu a-t-il fait toutes choses pour vous, et vous pour servir vos convoitises et vos plaisirs? Le Seigneur n'a-t-il pas fait toutes choses pour vous, et vous pour lui-même, afin que vous le craigniez et l'adoriez en esprit et en vérité, dans la justice et la vraie sainteté. Mais où est votre service de Dieu? Tant que vos cœurs courent après les convoitises et les plaisirs, vous ne pouvez pas servir Dieu et les plaisirs insensés du monde, comme jouer aux boules, boire, chasser, faire de la fauconnerie, et autres choses semblables. Si ceux-ci ont votre cœur, Dieu n'aura pas vos lèvres, considérez car c'est vrai. C'est pourquoi, de la part du Seigneur, vous devez tous recevoir témoignage de malheur et de misère, de tribulation et de colère, vous qui persévérez dans l'amour et la pratique de vos sports vains, de vos convoitises et de vos plaisirs. Maintenant est le jour où, partout, tous sont exhortés à la repentance. Ô peuple insensé, méchant et lent de cœur à croire les menaces du grand Jéhovah contre les méchants. Que ferez-vous au jour de la violente colère du Seigneur, qui se hâte de venir sur le monde des hommes impies? Quel bien vos sports insensés et vos délices vous ont-ils fait, maintenant qu'ils sont passés, ou quel bien vous feront-ils lorsque le Seigneur demandera vos âmes? Ainsi réveillez-vous tous maintenant de votre sommeil, et voyez où vous en êtes, et que la lumière de Jésus-Christ, qui brille dans la conscience de chacun de vous, vous sonde à fond, et elle vous fera voir clairement que, malgré toute votre profession de Dieu, du Christ et des Écritures, vous les ignorez et vous leur êtes ennemis, ainsi qu'à vos propres âmes, et qu'étant trouvé vivant dans les plaisirs, vous êtes mort pendant que vous vivez. C'est pourquoi le Seigneur, par beaucoup de messagers, vous avertit d'avance et vous appelle à la repentance et à une profonde humiliation, afin que vous abandonnassiez le mal de vos œuvres, reconnaissiez ce jour de votre visitation, et tant que vous avez du temps, l'estimiez, de peur que les choses qui appartiennent à votre paix ne soient cachées à vos yeux à cause de votre désobéissance et de votre rébellion contre le Saint. Et alors il eût mieux valu pour vous n'être jamais né, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je le dis encore, repentez-vous, donné en prison de Lanceston en Cornouaille aux joueurs de boules sur le Green. Une fois relâchés, nous obtîmes des chevaux et chevauchâmes vers la maison de Humphrey Lowe, où nous le rencontrâmes sur la route. Il nous dit qu'il était très troublé dans son esprit à notre sujet, et qu'il ne pouvait rester chez lui, mais qu'il était en chemin vers le colonel Bennet pour chercher à obtenir notre liberté. Quand nous lui dîmes que nous avions été libérés et allions chez lui, il en fut extrêmement heureux. Nous allâmes chez lui et eûmes une belle et précieuse réunion. Beaucoup furent convaincus et tournés, par l'Esprit du Seigneur, vers l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. De sa maison nous allâmes chez Love de Amblay, où nous eûmes aussi une belle grande réunion. La puissance du Seigneur dominait tout, beaucoup y furent également convaincus et tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, leur Maître. Retour suivant.